Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à mon t-shirt tout neuf?
Ah, il était neuf. Bon, j'ai voulu me fabriquer un crop top et je me prépare pour les festivals.
Ah oui, eh bien tu vois, je vais prendre ta chemise en coton d'Égypte et je vais m'en faire une petite robe sans manches sympa pour accorder nos tenues.
Un festival dans un corps de fer, mais une histoire de copains. On parle souvent de nos festivals locaux comme une histoire de copains, mais c'est ce qui donne la force et cette richesse culturelle et artistique de dans notre département. Aujourd'hui, dans cette émission, on vous parle du festival Zéro Tapage avec mes invités d'aujourd'hui, Barbara Larsonneau et Mathis Primo. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour, merci.
Bonjour.
Alors ça sera cette année la 8e édition du festival qui aura lieu donc le 20 juillet à Loiron-Ruillé. Dans la suite de cette émission, on se rend à Saint-Berthevin où a lieu le championnat de France UNSS de handball féminin, excellence minime. Et nous irons à la rencontre de jeunes reporters qui couvrent justement l'événement pour l'occasion. On terminera bien sûr avec une de nos chroniqueuses phares de cette année, Priscilla Mignard, qui nous parle de droit comme vous n'en avez jamais entendu parler. Bonjour Priscilla, comment vous allez?
Bonjour, toujours un peu de travers Margot, mais ça va.
Et alors de quoi vous nous parlez aujourd'hui?
La rétroactivité de la loi pénale plus douce, tout un programme.
Et voilà, c'est toujours ça, des concepts qu'on ne connaît pas et finalement qu'on découvre sous un jour plutôt sympathique, un peu grinçant je crois.
Je suis pas sûre qu'on les comprenne bien au final, mais le but c'est de faire rire.
Bon c'est super, on vous retrouve en fin d'émission Priscilla, merci beaucoup. Bienvenue à vous amis auditeuristes dans cette agité du local. Je suis Margot et je vous propose de commencer tout de suite avec l'entretien du jour puisque je vous l'ai dit, je suis en très bonne compagnie aujourd'hui. Je suis avec Barbara Larsonneau et Mathis Primo, programmateur du festival Zéro Tapage qui aura lieu à la Blandinière à Loiron-Ruillé le 20 juillet. Ça commence à 20h. Cette année, c'est la 8e édition du festival. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être quelques mots pour commencer sur l'origine de ce festival? Parce qu'on dit toujours un festival, ce festival commence par une histoire de copains précisément. Qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est en effet une bande de copains qui aiment la fête, qui aiment la musique, qui ont commencé à organiser des soirées dans le cadre privé. Et au fur et à mesure, ces soirées, elles commençaient à faire un petit peu trop de bruit et il commençait à y avoir un petit peu trop de monde aussi. Et donc,
d'où le nom Zéro Tapage peut-être?
Exactement, on a créé l'association en 2018 pour officialiser en fait nos événements. Et donc le nom de l'asso a été trouvé suite à un petit tapage nocturne et donc depuis le festival se tient à la Blandinière à Loiron, donc dans un corps de ferme qui nous est prêté par les parents d'un des membres de l'association, du conseil d'administration.
Et alors ce noyau dur initial qui a créé donc l'association, le festival, l'événement lui-même, est-ce qu'il est toujours là? Est-ce qu'il est toujours présent? Est-ce qu'il y a des nouveaux visages qui sont arrivés en cours de route?
On a une bonne majorité qui est encore dans le conseil d'administration, les fidèles. Après, on a quand même des nouvelles recrues, notamment Mathis, depuis 3 ans. Puis au-delà du conseil d'administration, il y a aussi une belle brochette de bénévoles. On est tous copains. L'année dernière, on était à 80 bénévoles. Donc finalement, on n'a jamais besoin de recruter parce qu'on a suffisamment d'aide dans notre cercle proche. Donc, que des amis. Et je pense que c'est ça la grosse force du festival.
Et alors Zéro Tapage, donc c'est un festival, mais c'est aussi un collectif finalement d'artistes, on peut le dire.
Oui, donc notre événement fort, c'est le festival qui a lieu tous les étés fin juillet, mais on est actif aussi tout au long de l'année. Donc on est un collectif de DJ, on mixe dans des bars à Laval, aussi dans d'autres festivals de la Mayenne principalement. Et en plus, cette année, on va avoir la fête de la musique, on pose une scène au Square de Boston. Je ne sais pas si vous étiez dans les parages l'an dernier, mais c'est comme l'an dernier.
Oui, donc,
on a un beau calendrier, on mixe à peu près 3 fois par mois. Donc ça fait beaucoup de week-ends consacrés à Zéro Tapage, sachant qu'on est tous 100% bénévoles dans l'association.
Oui, donc une association vraiment dynamique et portée par ses bénévoles, c'est hyper intéressant.
Ouais, complètement.
Barbara, tu nous le disais tout à l'heure, le festival effectivement est installé depuis 2015 à la Blandinière à Loiron-Ruillé. C'est un lieu qui vous est prêté gracieusement, mais alors l'année prochaine peut-être que ça va bouger apparemment.
Oui, en effet, la ferme va être vendue et donc on va devoir trouver un nouveau lieu pour organiser notre festival. Ça va être l'occasion aussi de peut-être revoir un format, passer sur 2 jours, revoir le nombre de scènes ou des activités supplémentaires. Mais donc on va commencer à rechercher un lieu si jamais dans votre entourage, vous avez des connaissances qui seront prêts à nous accueillir, à accueillir un festival de musique électronique. Eh bien, c'est avec grand plaisir.
faut pas hésiter à vous contacter. On peut vous contacter via les réseaux sociaux, peut-être à d'autres endroits également.
Oui, sur les réseaux. Sinon, on a une adresse mail contact@zerotapage.com.
Voilà, pour accueillir un festival donc, de musique électronique. La programmation a été annoncée il y a 3 jours, une très belle programmation. On va en parler dans quelques instants. L'année passée, il y avait 2 scènes et un troisième espace un peu plus calme. Est-ce qu'il y a des nouveautés pour cette année, Mathis ?
Alors oui, en effet, on a cherché à recentrer un peu le festival, vu que c'est un format d'une nuit de 19h30 à 6h du matin. On s'est dit qu'on allait essayer de réarranger l'espace pour faire plus un espèce de club... un endroit où les gens peuvent interagir entre eux sans être tout le temps en train de se déplacer partout et puis d'essayer d'avoir de plus de monde toujours devant la musique parce que c'est ce qu'on cherche quand même principalement.
Oui, parce que finalement, plus l'espace est grand, plus il y a de scènes, plus on ne sait pas forcément où donner de la tête non plus.
C'est ça, oui. Et puis on a un espace vraiment très grand, donc on s'est dit qu'on allait mieux recentrer les choses. Mm-hmm. Donc on a toujours les 2 scènes, une en intérieur, une en extérieur. Mais par contre, c'est le petit espace entre les deux qui va bouger cette année. Et normalement, il y aura de belles surprises à la place, notamment en termes de scénographie, de décoration. On a de super équipes qui travaillent dessus.
Oh, super, on a hâte. C'est un festival qui, l'année passée, a misé sur la parité. Vous vouliez le plus inclusif possible. Est-ce que vous avez réussi le même pari cette année, Mathis ?
Eh ben, je pense, en tout cas, je l'espère. C'était le but qu'on poursuivait. J'aime pas trop parler de têtes d'affiche ou d'artistes principaux qui sont sexualisés en fait les artistes, voilà. Moi je les mets à peu près tous sur le même palier.
Mais il y a des noms peut-être qui vont plus interpeller l'auditeur.
Mais normalement oui c'est ce que j'ai cherché à faire en tout cas.
Et alors justement si on regarde cette programmation, comment elle a été pensée, qui est-ce qu'on peut retrouver comme artiste le 20 juillet?
Alors moi je fonctionne beaucoup au coup de cœur, c'est une programmation que je travaille depuis à peu près décembre on va dire, de décembre à mars grosso modo. C'est un travail d'écoute, de recherche aussi. L'année dernière en fait moi quand je suis arrivé il y a 3 ans j'ai voulu un petit peu professionnaliser la chose et donc j'ai commencé à contacter beaucoup de bookers dans toute la France et certains avec qui on a travaillé l'année dernière du coup je les ai recontactés encore. Et donc, il y a des espèces de petites collaborations qui se font au fur et à mesure. On apprend à se connaître dans le milieu. Nous, on apprend à se faire connaître en tant qu'association bénévole.
Bien sûr.
Et donc, ça permet d'avoir des noms qui, mine de rien, tournent quand même dans des endroits assez prestigieux. Donc, on est assez content de ça. Et toujours pour, à notre échelle, en fait, sans mettre à mal l'association, on va dire.
Bien sûr. Et alors, par exemple, est-ce que toi, tu as un coup de cœur sur, parmi les artistes, un coup de cœur? Ah, t'aimes pas trop hiérarchiser, alors dire ça,
non,
c'est
peut-être pas... Non, mais c'est toujours compliqué, mais oui, de toute façon, je travaille que au coup de cœur, donc je pourrais dire facilement que tout est un coup de cœur.
Voilà,
mais,
bon, déjà, on part bien.
C'est ça.
Alors, qui est-ce qu'on va retrouver comme artiste cette année?
Alors, comme à chaque fois, en fait, vu qu'on est que sur une soirée, j'essaye de faire le spectre le plus large des musiques électroniques, donc ça commence toujours un petit peu calmement, crescendo, et puis ensuite, ça va jusqu'à 6h du matin, où là, c'est vraiment la fête pour ceux qui veulent continuer à faire la fête jusqu'à très tard le soir. Okay. Voire très tôt le matin. Donc on commence avec une association rennaise. Là, c'est la carte un petit peu locale du moment. C'est Solarium, une association qui est composée principalement de filles qui sont DJ depuis quelques années maintenant, qui sont sur beaucoup d'événements à Rennes, notamment les Open Air ou la Ferme de Quincé, si ça parle à certains auditeurs.
Est-ce qu'il y a une identité justement à ce collectif de filles?
Alors, ils se veulent inclusifs. C'est des endroits très safe space. Voilà, ouais. On est toujours sur des artistes de toute façon qui ont des valeurs, qui portent des valeurs d'inclusivité, ça c'est important. Et après, au niveau du spectre de ce qu'elles proposent musicalement, elles-mêmes disent qu'elles ratissent large.
D'accord.
Donc normalement, pour un opening, ce sera très bien.
Voilà, idéal, idéal.
On reste dans le champ lexical du jardin et de la ferme.
Ok, super. Et alors, juste après, qu'est-ce qu'on aura?
Juste après, là du coup, ce serait mon petit coup de cœur si je devais en choisir un. Mm-hmm. C'est Miralo, qui est une productrice qui nous vient de Paris, qui est en train de cartonner en ce moment, qui fait les plus grandes scènes. Elle a fait Madame Loyal, le Badaboum, le Cabaret Extraordinaire. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un qui est en train de beaucoup monter en gamme, on va dire. Mm-hmm. Et en plus, elle a sorti un EP il n'y a pas très longtemps qui s'appelait Tribute to Chicago. Donc pour ceux qui aiment la house de Chicago, un petit peu roots, on va dire, c'est vraiment une super découverte, une super expérience. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde pour aller voir ça.
Super. Et peut-être, est-ce qu'il y a un artiste en particulier pour des auditeurs, par exemple, qui ne seraient pas forcément encore adeptes de la musique électro? Est-ce qu'il y a un artiste qui pourrait les interpeller, qui serait particulièrement accessible?
Mais tout à fait. Superbe transition. Donc, chaque année, on essayait de faire un petit peu du live et du DJ set. Ouais. Et là, donc, on s'est formé donc, plus sur un format club, mais j'ai quand même voulu garder un groupe, ou en tout cas du live, avec les moyens qu'on a. Et donc, on va accueillir une proposition qui s'appelle Chien Méchant, qui est, pour le définir, eux parlent de disco électro. Moi, je rajouterai un petit peu la pop et le psychédélique. Ça va de Justice pour l'électro à Supertramp pour le côté disco-pop. Et un peu Todd Terje, pour ceux qui connaîtraient, pour le très psychédélique.
D'accord. On écoutera justement un morceau tout à l'heure de Chien Méchant.
Mais avec plaisir, oui. Et c'est vraiment pour tous les amateurs de synthé, clavier, batterie. C'est un duo, ils viennent de Paris. Ils ressemblent à deux métalleux avec les cheveux très longs, des manteaux de fourrure. C'est très décalé, c'est très...
Très visuel
très
aussi.
D'enfant, très visuel.
Il ne faut pas seulement écouter sur les plateformes d'écoute, mais aussi se rendre sur place puisqu'il y a des choses à voir.
Mais tout à fait, oui.
Super. Et alors, en quoi d'autre encore?
Alors, en autre productrice qui est en ce moment, elle vend très en poupe, ce sera Dylan Dylan, que vous avez pu voir, je crois, ou que vous verrez dans un autre festival local.
Qui est passé.
Il s'est passé déjà?
Elle est passée à Pampa, il y a 2 ou 3 semaines.
D'accord.
Donc, à Mayenne, organisée par l'association Tribu Familia, qui organise aussi un singe en été.
C'est ça. Donc, pour ceux qui l'auraient déjà découvert, qui l'auraient beaucoup aimé, c'est l'occasion de revenir la voir. Donc, le 20 juillet, au festival Zéro Tapage. On n'a pas encore fait le tour de toute la programmation, je crois.
Non, il reste 2 artistes.
Vas-y, dis-nous tout, Mathis.
Alors, toujours dans le mélange des genres, ensuite, on accueillera Kasbah, qui est un franco-algérien, qui est très dans le mélange des cultures, en fait. Lui s'est toujours posé une place de comment je me définis, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma musique. Et donc il puise en fait dans la musique traditionnelle algérienne, et il va rajouter un beat techno, un beat breaké, et ça donne une espèce d'expérimentation. Là pour nous ce sera une espèce de set un petit peu trans, une exploration avec beaucoup de batterie, ce sera assez tard, hein, ça va passer dans les 2 heures du matin.
Oui, voilà, ce que je me disais, ça c'est le genre de musique qu'on aime bien écouter un peu plus tardivement, c'est parfait,
c'est
mais ça. C'est idéal. Oui.
Et pour autant, il ne faut pas avoir peur du côté trans. Moi je sais que personnellement, je suis quelqu'un qui n'est pas très adepte de la trans, ça ne m'attire pas plus que ça. Mais en fait, lui, il est aussi fondateur du projet Musique de Fête, qui pour ceux qui connaissent, est un espèce d'ovni dans le monde de la musique électronique. C'est vraiment... C'est extrêmement joyeux, c'est pas du tout agressif comme musique. Enfin, c'est vraiment, ça peut plaire à tout le monde. Et c'est vraiment quelque chose à écouter pour le coup, au moins une fois, pour se faire une idée, pour découvrir de nouvelles choses.
Et le découvrir en live, c'est important. C'est vraiment des sons qui s'écoutent en live particulièrement, je pense, pour le comprendre, pour le vivre d'une certaine manière.
Ah oui, totalement. Et puis c'est quelqu'un qui est capable de... Enfin, comme tous d'ailleurs, mais qui s'adapte très très bien à l'environnement dans lequel il est. Donc ça devrait faire une très belle soirée.
Et alors, on termine la soirée avec quoi?
Et on termine la soirée avec un producteur qui s'appelle Ravel, donc pas grand chose à voir avec le boléro, mais il nous vient de Marseille, il a des petites moustaches gominées magnifiques et ça devrait être une très bonne clôture pour la fin. C'est un producteur qui a énormément de... comment dire ça ? En fait il a une oreille, il est capable de faire quelque chose d'extrêmement énergique comme quelque chose de très beau, très doux. Il a produit un morceau il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Outre Noir, qui a fait... à peu près tous les grands concerts de DJ, c'est Jamie XX par exemple l'a joué ou d'autres personnes, et c'est quelqu'un qui a vraiment une capacité à improviser en temps réel en fait, et à proposer toujours quelque chose qui va faire une espèce d'onde fluctuer sur la foule, et ça va être, ça va être très très bien.
Bon, eh bien merci beaucoup, je pense que l'idée, c'est d'aller éventuellement écouter sur les plateformes d'écoute, si on ne sait pas trop, ces différents artistes, mais vraiment venir les voir en live, parce que c'est de la musique, je crois, qui se vit vraiment dans la foule, comme tu le disais. Combien de spectateurs sont attendus cette année? Combien il y en avait l'année passée, peut-être?
Alors, l'année dernière, je crois qu'on était sur 600 personnes, à peu près.
700.
En tant que spectateur. Si on compte les bénévoles, les autres personnes, on est un peu au-delà. On arrive dans les 700, ouais. Mais
de toute façon, l'idée de ce festival, c'est vraiment de se retrouver tous ensemble en partageant justement ces mêmes valeurs. L'idée, c'est que ça se passe bien. Vous ne cherchez pas forcément non plus l'affluence, la foule.
Non, 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 comme à l'image en fait, des organisateurs, ça reste un festival à taille humaine, à petite échelle. D'année en année, on arrive à avoir des nouveaux festivaliers, mais ce n'est pas notre objectif non plus. Surtout que... Comme je disais, on est 100% bénévole, donc on essaye de faire du mieux possible, sachant aussi que dans l'association, il y a des membres qui sont du milieu du spectacle vivant. Donc ça professionnalise un peu l'événement, mais ce n'est pas non plus notre premier objectif, parce qu'on veut que ça reste à la cool en fait, et que nous on prenne aussi du plaisir tout au long de l'année à organiser. Et donc pareil pour la taille de l'événement et le nombre de participants, on y va petit à petit quoi.
Et alors il y a une, chaque année il y a une bière que l'on retrouve, une bière spécialement préparée pour le festival, c'est la Zéro Pression. Est-ce qu'on la retrouve encore cette année?
Ouais, toujours cette année. Donc c'est une bière artisanale qui est faite en collaboration avec la brasserie Cousin de Pré-en-Paille et aussi avec Miguel qui tient la cave du Temple Mousse à Laval dans le centre-ville. Donc cette année le brassin a été refait et donc on va pouvoir reproposer la bière. Elle est déjà en vente au Temple Mousse depuis plusieurs semaines. Elle sera aussi à découvrir, à déguster ou à redéguster lors de la fête de la musique au Square de Boston, là où on tiendra une scène et un bar, et bien sûr au festival Zéro Tapage à Loiron.
Parce que depuis tout à l'heure on parle effectivement de valeurs et le local c'est très important pour, le, pour l'association.
Ouais ouais, complètement, on a un ancrage territorial assez important et qui nous tient à cœur. Qui s'est même amélioré, on va dire, et renforcé depuis le Covid. Zéro Tapage fait partie du collectif des festivals du 53, qui s'est monté pendant le Covid. Et donc depuis, il y a beaucoup d'échanges, de l'entraide, on communique et on se partage aussi du matériel, il y a de la mutualisation. Et pour nous qui sommes encore petits, c'est une grande force de pouvoir échanger avec, avec le fond de la rue, avec les trois éléphants qui sont les vieux de la vieille en fait sur le département.
Et parmi ces valeurs, c'est aussi l'accessibilité, finalement l'attractivité de la billetterie. Cette année encore, les prix ne sont pas particulièrement élevés. Finalement, tout le monde peut venir facilement.
Oui, on a des... Alors, je crois qu'on a plus d'early birds.
Je crois avoir vu effectivement.
Les early birds sont épuisés, ouais, ça
mais
part
oui,
vite.
On a dû rebouger un tout petit peu la billetterie, mais on reste fidèle à ce qu'on voulait, c'est-à-dire une soirée très complète. On a 8, 9, 10 heures de son, à peu près 10, 11 heures de son, et on reste en dessous des 20 euros sur place.
Oui, donc vraiment accessible, effectivement. Oui. Bon, eh bien, merci à tous les deux d'avoir été avec nous. C'est un plaisir de vous avoir reçus à nos côtés. Et donc, je le disais tout à l'heure, on écoute tout de suite Chien Méchant, Club de l'Ennui. Quelques mots peut-être sur ce titre, Mathis, avant qu'on lance ?
Fermez les yeux, sauf si vous êtes en voiture, bien sûr.
Merci, on écoute tout de suite Chien Méchant, Club de l'Ennui.
Tu ne seras jamais parti. je ne pense plus qu'à cette dernière fois.
Et nous sommes de retour dans l'AJT du local sur l'autre radio. On passe maintenant à notre capsule concernant les élections européennes réalisées avec la Maison de l'Europe. À l'approche des élections européennes, la Maison de l'Europe en Mayenne nous offre une série de capsules rappelant différents points importants, nous permettant de mieux comprendre les enjeux actuels de l'Union européenne, les différents champs d'action du Parlement européen et nous explique différentes mesures récentes. Françoise Marchand, coprésidente à la Maison de l'Europe en Mayenne, nous parle aujourd'hui de la santé.
La préparation des États de l'Union européenne au Covid-19 était pour le moins hétérogène. Mais il faut dire que l'Union européenne n'a qu'un rôle d'appui des États en matière de santé. Malgré tout, elle a joué un rôle essentiel en termes de coordination, de solidarité, un rôle amené à se renforcer et une réaction très très rapide. L'Union européenne a joué un rôle clé dans la pandémie grâce à l'accès rapide aux vaccins. Sous l'impulsion de 4 pays dont la France, l'Union européenne a financé 7 programmes de recherche en échange de la mise à disposition de doses pour les 27 pays européens à des prix avantageux. La leçon a été retenue, des contrats sont déjà signés en prévision d'une autre pandémie. Les contre-mesures médicales, alors contre-mesures médicales, ce sont les masques, les réactifs, les antiviraux. Le programme Rescue 2 dispatche pour 1,2 milliard d'euros de contre-mesures médicales, pour beaucoup contre les menaces nucléaires ou chimiques dans les États de l'Union. La constitution de stock européen de contre-mesures couvrant l'éventail des mesures pandémiques n'avance qu'à petits pas. Par contre, l'Agence européenne du médicament a prouvé qu'elle pouvait bien travailler de façon accélérée en cas d'urgence sanitaire. En ce qui concerne les essais cliniques, il y a un réel besoin de grands programmes européens qui permettraient des essais cliniques prévalidés, prêts à l'emploi en cas d'urgence sanitaire. Des centaines d'essais cliniques ont été autorisés en urgence lors de la crise du Covid. Beaucoup ont été redondants ou mal calibrés. Il existe un centre européen de contrôle des maladies, le CDC, qui fait un travail d'analyse de risque reconnu pour sa qualité, mais avec des moyens humains très limités. Il s'appuie toutefois sur un réseau de labos nationaux mieux coordonnés et les capacités en séquençage ont bien augmenté en Europe depuis Covid. L'Europe prendrait, d'après des vétérinaires, prendrait insuffisamment en compte la dimension de la menace pandémique, c'est-à-dire le fait que les santé humaines, animales et environnementales sont intimement liées. Quels moyens en temps de paix pour la santé ? L'Union européenne et les pays membres ont débloqué des moyens exceptionnels pendant et après la pandémie. Pour combien de temps ? Nul ne le sait. Les derniers arbitrages européens ont amputé le budget santé de 1 milliard. Dans l'Union européenne, seule la France a gardé après la crise un conseil scientifique spécialisé dans les risques sanitaires.
Et voilà, un petit tour maintenant sur la météo du jour. Et aujourd'hui, on a de bonnes nouvelles. Grand soleil partout dans le département, donc préparez vos lunettes de soleil et vos crèmes solaires. Les températures vont de 17 à 21 degrés. Nos amis de Sousse, dans le nord Mayenne, vous aurez un petit 17 degrés, parfait pour une promenade matinale. Pendant ce temps, à Château-Gontier, profitez bien de vos 21 degrés. C'est l'occasion de sortir en t-shirt. À Laval, on est plutôt bien avec 20 degrés, idéal pour une petite sortie en ville. À Ernée, ce sera 18 degrés. Une belle température pour un tour au parc et à Évron, vous aurez également 20 degrés. Donc c'est une bonne excuse pour une virée à vélo. Oui, vous vous dites peut-être que je vais vous faire toutes les idées de sortie en extérieur. C'est peut-être un peu lourd, je le conçois, mais tenez-vous bien, pas un seul nuage à l'horizon. Pour une fois, pas grand-chose à dire sur la météo. On ne va pas s'en plaindre pour demain. La matinée sera totalement ensoleillée avec des températures fraîches entre 9 et 11 degrés, plutôt idéal pour commencer la journée. L'après-midi, ce sera un peu plus nuageux, mais rassurez-vous, pas une seule goutte de pluie en vue. Dans le nord-ouest du département, on vous promet un ensoleillement total total. Mayenne, vous aurez 19 degrés à Cran et Laval, ce sera 20 degrés, parfait pour se poser en terrasse. Et à Château-Gontier, le 21 degrés se maintient. Encore une belle journée en perspective. Là, je pense à tous les Théo qui ont une collection de lunettes de soleil exposées soigneusement dans un coin de la maison, tel un trophée d'on ne sait quoi, d'on ne sait où. C'est le moment de briller aux yeux du monde. Et pour ceux que ça étonne, eh bien oui, si, ça existe vraiment. Tout est vrai dans cette émission. Et voilà, je vous le disais, maintenant on se rend à Saint-Berthevin où a lieu le championnat de France de handball féminin excellence catégorie minime. Je suis allée à la rencontre des jeunes reporters de l'UNSS qui couvrent l'événement avec une revue papier et une émission de radio en direct chaque jour. Un travail exceptionnel réalisé au cœur d'une ambiance sportive et enthousiasmante. Écoutez.
C'est la finale, on va dire, du championnat de France de handball féminin excellence, donc catégorie minime. Donc ce sont des élèves qui viennent de toute la France, qui se sont qualifiés depuis le début de l'année, au fil des compétitions, d'abord au niveau départemental, puis au niveau académique et au niveau interacadémique. Et donc ils se retrouvent ici à 16 équipes qui se sont qualifiées. Et ce sont des sections excellence, donc ce sont des filles qui sont en section handball. Il y a une excellente ambiance parce que c'est finalement le couronnement d'une saison. Alors, il y a ici certaines équipes sur les 16 qui participent pour la première fois. Et on a des équipes comme l'équipe de Besançon, par exemple, ou l'équipe de La Réunion qui sont des équipes habituées. Donc il y a la motivation parce qu'à la fois, on vise le podium, on vise la réussite comme Besançon, comme Caen, comme La Réunion, qui sont un peu les favorites. Et on a d'autres qui mettent de la simple joie parce qu'ils se sont qualifiés et que pour elles, c'est un vrai plaisir d'être présente. Ça va être un souvenir pour toute leur vie.
Et alors, vous couvrez avec des jeunes cet événement à la radio, aussi à l'écrit. Explique-nous un peu ce projet-là.
Alors, depuis quelques années, le sport scolaire de l'UNSS a développé un réseau parallèle, c'est-à-dire que les responsables se sont dit que le sport, c'est le sport, mais c'est aussi des gens autour du sport qui permettent au sport, aux compétitions sportives de se développer. Il y a ce qu'on appelle des jeunes officiels. Donc les jeunes officiels, ça recouvre des jeunes qui s'engagent en tant qu'arbitre, en tant que coach, en tant que éco-responsable aussi. À un autre niveau, on a même des gens qui s'engagent comme interprètes pour des compétitions internationales. Et nous, en Mayenne, on a développé les jeunes reporters. C'est-à-dire qu'on forme, là, depuis plusieurs années, des collégiens et des lycéens qui vont aller couvrir les événements, aussi bien dans les établissements scolaires qu'au niveau départemental, qu'au niveau académique. Et dès qu'il y a une compétition nationale en Mayenne, eh bien, on la couvre aussi. On va former les jeunes à la rédaction d'articles, à la captation sonore, à la captation vidéo, au montage sonore, au montage vidéo. On sort quatre fois dans l'année un journal qu'on a baptisé l'éphémère. On donne de la vie au sport et ça permet à des jeunes qui ne sont pas forcément sportifs mais qui aiment le sport, de couvrir, de voir et de participer à des événements hyper conviviaux en s'investissant à leur manière à eux.
Prise du direct dans 3 minutes.
Ouais, bonjour, je m'appelle Noémie, je suis en 3e au collège Amélie Dumaine.
Donc moi je suis Aubin Madio, je suis élève de première générale au lycée Victor Hugo à Château-Gontier.
On observe, on regarde, on prend des notes sur ce qui se passe ici et pour ensuite écrire des articles et pour tenir une émission à 17h en ligne sur la radio.
Alors Erwan m'a expliqué qu'à 9h vous faites une sorte de conférence de rédaction, vous vous retrouvez tous, vous répartissez les sujets. Toi par exemple, Aubin, qu'est-ce que tu as traité comme sujet aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui on a travaillé principalement sur le sujet de la colle, donc l'usage de la colle à l'UNSS qui est interdite et qui est utilisée aussi en pro, donc ça porte débat. On a fait le portrait du jour sur les jeunes arbitres, donc on a interviewé une jeune arbitre et on va ensuite la présenter sur le plateau pendant notre chronique.
Et alors les sujets là que vous choisissez chaque jour, est-ce que c'est difficile à trouver ou est-ce que vous débordez d'idées finalement ?
Je pense qu'on a beaucoup plus d'idées que ce qu'on voudrait faire dans l'éphémère, mais on arrive assez à aboutir à de bonnes choses et souvent on met ce que les professeurs nous demandent avec nos idées à nous et ça fait un résultat plutôt pas mal.
Et alors avec tout ce bruit là derrière, vous arrivez à vous concentrer?
C'est un peu dur des fois, par exemple, tout à l'heure je faisais réciter mon texte que je devais dire à l'émission et je m'entendais même pas parler devant Chloé, donc c'est un peu compliqué, mais ça met une bonne ambiance.
Et alors vous êtes avec Benoît qui participe à l'émission aussi. Donc Benoît est un habitué des émissions sportives. Qu'est-ce que c'est pour vous? Est-ce que ça donne de l'élan? Est-ce que ça cadre? Comment vous ressentez le travail avec lui?
Oui, il nous aide beaucoup dans la rédaction des chroniques, principalement. Les animateurs, ça nous aide à nous booster, à nous donner des idées. Donc ouais, franchement, c'est cool.
Il nous lance des bons sujets le matin. Et ensuite, juste avant l'émission, il nous dit comment il va faire. Et il nous lance vraiment pour nous donner envie. Par exemple, avec Chloé, on était stressés hier. Et il a su nous mettre en confiance et c'était vraiment bien.
Ambiance de dingue ici à Saint-Berthevin, oui, pour ce championnat de France. Deux filles, on est au deuxième jour. On est rentré dans les matchs couperets pour les qualifications en quart de finale. C'est de la folie totale. Il y a évidemment beaucoup plus de tension, il y a beaucoup plus de passion. Vive le sport, bien entendu, et ça...
Qu'est-ce que tu fais, toi, auprès de ces jeunes, Benoît?
Eh bien, écoute, je ne m'attendais pas à ça, puisqu'on m'a donné une équipe de jeunes reporters. Et en fait, moi, j'étais censé les guider pour faire une émission de radio. Donc, ce que je fais, mais je m'attendais vraiment à avoir des enfants qui bafouillent, qui ont une petite panique vis-à-vis du micro. Et mais pas du tout. Ils sont déjà capables, à leur âge, ils sont capables de rebond, ils sont capables d'enchaîner, ils sont capables d'interviewer. Et c'est vraiment, vraiment intéressant de les écouter.
Et puis en fait, l'ambiance de l'événement, finalement, c'est aussi stimulant peut-être. Une fois que le direct commence, on est à la fois dans l'ambiance et à la fois dans l'énergie collective. Mais là, c'est une énergie de radio.
Exactement. Et comme tout n'est pas forcément extrêmement bien insonorisé, on l'a directement dans notre un petit peu aquarium ici. C'est extra, ça rajoute un petit peu à cette ambiance. Et comme tu dis, forcément, nous, ça nous galvanise et on est heureux derrière nos micros. Ouais.
Laissez-moi maintenant vous présenter notre guide intrépide à travers les dédales juridiques, celle qui manie l'humour grinçant comme personne. Eh bien, c'est Priscilla, bien sûr. Les facs de droit auraient une toute autre réputation si elles se permettaient un peu de sarcasme, de grinçant, comme vous le faites si bien, Priscilla.
Merci.
Allez, c'est à vous.
Salut mes petits codes pénaux badass. Aujourd'hui, nous parlons de la rétroactivité de la loi pénale plus douce. Vous voulez un peu de latin ?
Oh oui, Priscilla, vas-y.
Comment vous résistez, mes gladiators du Puy du Fou? Donc la rétroactivité de la loi pénale plus douce est aussi appelée en latin rétroactivité inmissus, ou en langage Mylène Farmer, pourvu qu'elle soit douce. C'est un principe dérogatoire car la règle est la non-rétroactivité de la loi nouvelle. Le juge ne peut l'appliquer à une situation antérieure. Mais alors, est-ce qu'on se fout, nous, depuis l'école élémentaire, en nous faisant apprendre le futur antérieur? Vous auriez pu le dire.
Mais c'est quoi cette règle? Cette règle, elle sert à quoi?
Eh bien, l'intérêt de cette règle de non-rétroactivité de la loi nouvelle, c'est la consécration de l'impossibilité de remettre en cause les conséquences d'actes déjà produits. Sachant que le citoyen aura réglé son propre comportement sur le droit connu au moment où il a agi. La sécurité juridique, quoi. En même temps, le citoyen, il a déjà bien du mal à changer de caleçon tous les jours, on va pas lui demander d'anticiper les changements de loi en plus, hein. Donc, mes petites balances à weed, le droit constitutionnel n'autorise la rétroactivité de la loi pénale qu'en droit pénal. Voilà, j'anticipe. C'est-à-dire pour la répression des contraventions, délits ou crimes, et uniquement quand cette loi prévoit des peines ou des incriminations plus douces. Exception notable, le délit de mode. Je ne le dirai jamais assez, oser se balader avec un t-shirt « Debout la République » de la campagne de Nicolas Dupont-Aignan, c'est définitivement impardonnable. No way.
Mais c'est quoi la différence entre une loi pénale plus douce ou plus sévère?
Cher Margot Trobi, une loi plus douce va alléger la peine prévue pour un délit préexistant, voire supprimer une infraction. Un même comportement ne sera donc plus poursuivi. A l'inverse, une loi instaurant un nouveau crime ou élargissant la définition d'un délit sera considérée comme une loi plus sévère. Dans ce cas, elle ne sera applicable que pour l'avenir. Alors que la loi pénale plus douce,
tout doucement,
sera elle d'application immédiate aussi, mais elle s'appliquera également lorsque les faits litigieux sont commis sous l'empire de la loi ancienne et non encore définitivement jugés au jour de la promulgation de cette loi nouvelle. C'est clair ou je vous ai perdu en chemin? on a parcouru le chemin. Oui, je sais ce que vous vous dites, mais quelle voix, Priscilla? Adèle garate tes fesses.
Cette rétroactivité, ça vient d'où alors, Priscilla?
Ce principe de la rétroactivité immissus est d'origine prétorienne.
Priscilla, ça veut dire quoi, prétorien?
Le droit prétorien, c'est la partie du droit romain issue des décisions des magistrats, appelée à l'époque « édit des prêteurs ». Et non « édit de préto », dont il ne sort plus grand-chose de toute façon. Donc le droit prétorien désigne aujourd'hui par analogie l'ensemble des règles juridiques qui se dégagent de la jurisprudence. Oh, jurisprudence, encore un mot compliqué de plus de 10 lettres, ça y est, j'ai perdu mon public NT1. Alors, mais Ali McBeal du jeudi, sachez que la jurisprudence est simplement l'ensemble des décisions de justice qui constituent en tant que telles une vraie source de droit. On en revient au droit prétorien, la boucle est bouclée, vive Dyson et Babilis. Donc le principe de la non-rétroactivité immissus a d'abord été consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation en 1810, il est donc presque aussi vieux que Marianne James, puis en 1981 par le Conseil constitutionnel. 1981, année de sortie de la soupe aux choux au cinéma. Ah, qu'est-ce qu'il aurait pas fait Louis de Funès pour payer ses impôts? Enfin, si vous n'êtes pas Pascal Praud et que vous n'êtes donc pas atteint de sénilité précoce, vous vous rappelez que je vous disais tout à l'heure que la loi pénale plus douce ne s'applique pas aux faits qui ont déjà été définitivement jugés. Toutefois, cette règle connaît certaines exceptions. Bah oui, sinon ce serait pas drôle. Notamment celle prévue à l'article 112-4 alinéa 2 du Code pénal, qui dispose que la peine cesse de recevoir exécution lorsqu'elle a été prononcée pour un fait dont l'incrimination a été abrogée. Ce fut le cas par exemple en 1982 avec la loi dépénalisant l'homosexualité, et plus particulièrement l'âge de la liberté sexuelle dans les relations homosexuelles, alors qu'elles étaient considérées comme des délits avant l'âge de 21 ans, du fait d'une loi du gouvernement de Vichy. En gros, sous Vichy, tu pouvais sucer des pastilles, ou Hans ou Friedrich, c'était même recommandé pour bouffer et pas que de la saucisse allemande, mais pas ton petit copain, même s'il avait un goût de menthe. Bon, en même temps, à ce niveau-là, le goût c'est plus citron si t'as de la chance, mais le plus souvent c'est anis ou orgeat, non? Ah, c'est quand je sors ce genre de phrase que je me dis que j'ai bien fait d'emmener mes enfants à la radio. Bref, du fait de cette loi, entre 1942 et 1982... plus de 10 000 personnes avaient été condamnées pour des actes homosexuels, et celles qui étaient encore sous le coup d'une condamnation furent de fait amnistiées ou graciées. Pour conclure, mes gardiens du paix, l'objectif originel du principe de non-rétroactivité de la loi est de protéger les citoyens contre l'arbitraire du pouvoir judiciaire, devant lequel la sécurité de chacun serait compromise si on pouvait changer les lois à sa guise et incriminer des situations et des personnes pour des faits qui étaient parfaitement légaux au moment où ils se sont produits. Purée, cette phrase est trop longue, j'ai battu le record d'apnée de passe-partout quand il se retrouve dans le métro coincé sous les aisselles d'un géant ou d'un mec de taille moyenne. La rétroactivité, je suis pas fière de ce que je viens de dire, la rétroactivité de la loi reste donc l'exception et il faut y veiller pour ne pas se retrouver dans un monde absurde où on ne saurait pas quel comportement adopter pour respecter la loi de demain. Pourvu que la loi ne dise jamais « J'espère que tu vas souffrir et que tu vas mal dormir. Pendant ce temps, je vais écrire pour demain l'avenir. » Je vous aurais prévenu.
Pour demain l'avenir, déjà, c'est qui ça? C'est qui? C'est qui ce... c'est une chanteuse?
Anne-Lou, Louane?
Ah, Louane, oui, oui, voilà, c'est ça, ça me dit.
Ouais, on avait dit chanteuse aussi, à la base, c'était un piège.
Oui, oui, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Priscilla, merci beaucoup.
Merci.
Et voilà, mes auditeurs, notre émission touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Mathis et Barbara pour leur passage dans l'AJT. Merci à toi, Priscilla. Un peu de grinçant dans cette émission, ça nous fait vraiment du bien. Restez avec nous pour la suite de la journée. Ce soir à 19h, ne ratez pas Le Grand V, animé par Delphine et Valentin. Comme chaque premier jeudi du mois, ils vous proposent un regard croisé décalé sur la variété française. Avec beaucoup d'humour, ils nous feront découvrir la chanson française comme on ne l'a jamais entendue, avec des fun facts, des tubes oubliés et quelques grosses casseroles aussi au passage. Quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Je serai en compagnie de Patrick Cosnet de la compagnie La Chaise Rouge, qui nous parlera donc du festival Ferme en Seine, avec un petit focus sur la pièce qui se jouera en Mayenne, L'arbre qui plantait des hommes. D'ici là, misons sur l'authenticité, le vrai, prenons soin de notre curiosité. Encore et encore, et surtout, faites-le bien.
Mimi, tu crois que c'est fini?
Quand elle dit au revoir, bah, c'est que c'est terminé.